par sa diligence, sa vigilance, sa maîtrise de soi, l'homme éclairé doit se faire une île que les flots ne pourront jamais submerger. Les insensés, dans leur manque de sagesse, s'abandonnent à la négligence. Le vrai sage conserve la vigilance comme son trésor le plus précieux. Ne vous laissez pas aller à l'insouciance, ni au plaisir des sens. Celui qui est adonné à la méditation fait une ample moisson d'allégresse. Lorsque l'homme vigilant se débarrasse de la négligence, monté sur les terrasses de la sagesse, il regarde d'en haut les insensés. Il contemple avec sérénité les foules affligées, comme un montagnard aperçoit les gens de la plaine. Zélés parmi les insoucieux, éveillés parmi les somnolents, le sage avance comme un coursier, laissant derrière lui la pauvre haridelle. La vigilance est admirée, la négligence est blâmée. Par la vigilance, un drap s'est élevé au plus haut des rangs des dieux. Il se meut comme la flamme, le bicou qui redoute la négligence et se réjouit dans la vigilance. Et il voit bientôt tomber ses entraves. Il voit bientôt toutes ses entraves tomber, grandes et petites, comme consumées. Le bicou qui se plaît dans la vigilance et redoute la négligence ne peut plus déchoir. Il se rapproche du Nibbana. Je vous ai lu tout le chapitre parce qu'il m'a semblé que c'est l'ensemble de ces versets qui produit une atmosphère et qu'ils sont faits plus pour être pris tous ensemble que chacun séparé. Parce que, comme nous l'avons trouvé la dernière fois, la traduction n'est pas assez correctement expressive pour que chacune de ces ces phrases apportent un sens concret. Par exemple, encore ici, je suis bien convaincu que la pensée originelle ne voulait pas dire qu'on doit être vigilant pour être admiré et qu'il ne faut pas être négligent pour ne pas être blâmé. Et d'ailleurs, l'exemple d'un drap qui est dans l'ancienne tradition hindoue, le chef des dieux de l'Ovaman, il est évident que ce n'est pas pour être admiré qu'il y ait une gêne. C'est une façon très enfantine de dire les choses. Pourtant, si on prend tous ces versets ensemble, ils ont, par leur répétition et par leur insistance, un pouvoir évocateur de la chose qui veut être exprimée et cela vous met en rapport avec une certaine attitude psychologique qui est très utile et qui a un effet assez considérable si on suit cette discipline. Les deux dernières, particulièrement, le mot bhikkhu, c'est la prononciation pali de bhikkhu. Ça veut dire le disciple. Les deux dernières sont très évocatrices. Le bhikkhu se meut comme la flamme ardente de l'aspiration. Et il redoute la négligence. La négligence, c'est vraiment cette espèce de relâchement de la volonté qui fait qu'on oublie son but et qu'on passe son temps à faire toutes sortes de choses qui, loin de contribuer au but que l'on veut atteindre, non seulement vous arrête sur le chemin, mais souvent vous détourne du chemin. Alors, la flamme d'aspiration du bhikkhu lui fait redouter la négligence. Il se souvient à chaque moment que le temps est relativement court, qu'il ne faut pas gaspiller son temps en route, qu'il faut aller vite, aussi vite que l'on peut, pas perdre une minute. Et alors, celui-là qui est vigilant et qui ne perd pas de temps, il voit ses entraves tomber, toutes, les grandes, les petites, toutes les difficultés s'évanouissent grâce à la vigilance. Et s'il persiste dans sa vigilance, qu'il y trouve sa pleine satisfaction. Ce qui arrive au bout d'un certain temps, le bonheur que l'on ressent à être vigilant est si puissant dans son action, que bientôt on se sentirait très malheureux si on perdait cette vigilance. C'est un fait que lorsqu'on s'est appliqué à ne pas perdre de temps en route, tout temps perdu devient une souffrance et on ne peut y trouver aucun plaisir, aucun joie. Et une fois qu'on est dans cet état-là, une fois que cet effort de progrès et de transformation et la chose la plus importante de la vie, celle à laquelle on pense constamment, alors vraiment on est en route vers l'existence éternelle, la vérité de l'être. Il y a certainement un moment du développement intérieur où, loin d'avoir à faire un effort pour se concentrer, s'absorber dans la contemplation de la vérité et dans la recherche de cette vérité et de son expression la meilleure, ce que l'on appelle ici la méditation, loin de nécessiter un effort, au contraire est une sorte de soulagement, de détente, de repos, de joie, et d'avoir à en sortir pour s'occuper de choses qui ne sont pas essentielles. Si tout ce qui peut ressembler à un gaspillage de temps devient terriblement douloureux. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'on est vraiment en route. Les activités extérieures se réduisent à la nécessité absolue et celles qui sont faites comme un service pour le divin. Tout ce qui est futile, inutile et justement qui ressemble à un gaspillage de temps et d'efforts, tout cela, loin de donner la moindre satisfaction, crée une sorte de malaise et de fatigue, et on ne se sent heureux que quand on est concentré sur son but. Alors, on est vraiment en route vers ce but.